Vous la connaissez déjà un peu aujourd'hui, on reçoit dans nos studios, mais à distance, ok, c'est correct, on triche encore pour quelques semaines probablement. Aujourd'hui, on est avec Caroline Collin, elle est responsable des communications au Cobali, l'organisme à but non lucratif, oui, qui s'occupe de la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre, mais également de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé. Bonjour Caroline.
Bonjour Patrick.
Là, j'ai entendu sur nos ondes cette semaine une publicité avec ta voix et ça parlait du cycle de l'eau domestique. Mon feeling, c'est qu'on s'en va exactement là ce matin, c'est ça?
Exactement, tu as bien deviné. Par contre, un petit détour avant. Okay. Écoute, je ne sais pas si tu as entendu parler, lundi, c'était la journée mondiale de l'eau.
Oh, bonne fête! Bonne fête! En retard.
Oui,
des fois, je t'entends.
C'est ça. C'est pas grave. Écoute, donc depuis 1993, le 22 mars, donc c'est l'occasion de souligner l'importance de l'eau douce. Puis cette année, l'accent a été mis sur la valorisation de cette eau-là par rapport aux nombreux usages qu'on en fait. Parce qu'en fait, même si on parle de la planète bleue hein, sur Terre, il faut savoir que la très grande majorité de l'eau qui est disponible, en fait, c'est de l'eau salée hein, qui est stockée dans les mers et les océans. Donc, c'est seulement 2,5% de l'eau qui est douce.
Wow.
Donc, c'est important, d'autant plus que, bon, c'est une ressource essentielle hein, à notre survie parce qu'à la base, ben, c'est la seule qu'on peut boire.
Ouais.
Alors, chez nous, c'est sûr que, bon, avec l'omniprésence de l'eau douce dans nos paysages, hein, on sait, on a beaucoup de lacs et de rivières.
Ben, on
est chanceux, effectivement, puis on n'est pas toujours conscient de cette chance-là qu'on a d'avoir accès à autant d'eau douce. Hein. Au Québec, petite statistique encore, on possède 3 % des réserves de la planète, donc c'est quand même beaucoup. On est chanceux. Par contre, c'est ça, c'est une richesse collective qui est important de protéger, d'utiliser de façon durable, responsable, parce que ben, l'eau, on ne peut pas la créer. Hein. Donc oui, c'est possible de l'épuiser. Donc, on en vient au cycle de l'eau domestique.
OK, mais d'accord, ça l'englobe quoi, ça, l'eau domestique?
Bien, en fait, c'est simple, c'est toute l'eau qu'on utilise chez soi au quotidien pour différents usages, donc la boire évidemment, mais aussi pour cuisiner, faire le lavage, la vaisselle, prendre notre douche, brosser les dents, aller à la toilette, arroser notre potager, nos plates-bandes, bref, une foule de choses. Quand on parle dans le fond du cycle de l'eau domestique, bien, c'est pour le distinguer du cycle naturel de l'eau hein, qu'on apprend souvent à l'école primaire, là, donc évaporation, condensation et bon, ainsi de suite, parce que dans le fond, pour pouvoir utiliser cette eau-là à la maison, ben on se trouve à la détourner de son cycle naturel, puis on lui fait suivre un autre parcours, hein, un parcours finalement artificiel pour nos besoins humains.
Effectivement. Bon, OK, moi, je connais déjà un peu la réponse à la prochaine question, mais tout d'un coup, là, exemple, que mon père serait à l'écoute en ce moment, je trouve que cette question-là est importante. Pourquoi, là, monsieur, madame, tout le monde qui écoute l'émission en ce moment devrait s'intéresser au cycle de l'eau domestique?
Bien, parce que à la base, hein, notre eau à la maison, bien, elle vient de la nature. Donc, et par la suite, après notre utilisation, bien, elle va finir par y retourner. Donc, de mieux comprendre les différentes étapes qui permettent de l'emmener chez soi, de la rendre potable, puis les étapes aussi par la suite hein, qui vont permettre de l'assainir puis de la retourner dans l'environnement, bien, ça peut aider, disons, à réaliser l'impact qu'on peut avoir sur la qualité de l'eau de nos rivières, nos ruisseaux, puis tout ça à partir de chez soi.
Oui.
Donc, c'est vraiment n'importe où. Là. Pas seulement si on habite sur le bord d'un lac, mais en pleine ville, on peut avoir un impact sur la qualité de notre ressource en eau.
Okay. C'est peut-être un peu large comme question, mais c'est quoi le parcours de l'eau domestique?
Oui, là, je vais essayer de faire ça simple et court. Hein?
On y va.
Est à la radio. Donc, d'abord, ben, l'eau potable qui sort de notre robinet doit être puisée dans la nature, comme je le disais tout à l'heure. Donc, à partir soit de l'eau de surface, le plus souvent une rivière, mais parfois aussi un lac, ou encore dans l'eau souterraine, donc c'est-à-dire l'eau douce qui est cachée dans le sol. Ensuite, ben, il faut s'assurer qu'elle soit sécuritaire à la consommation parce que c'est pas parce qu'à la base, oui, c'est de l'eau potable. Par contre, ben, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'on ait enlevé là, les différentes matières qu'on retrouve.
Oui, bien sûr.
Donc, si on est branché, par exemple, au réseau d'aqueduc, ben, ça signifie que notre eau a passé par tout un processus dans une usine de traitement de l'eau potable de notre municipalité. Au contraire, pour ceux qui ont un puits individuel à la maison, hein, c'est souvent le cas quand on est plus en campagne,
bien sûr.
Ben, à ce moment-là, c'est parfois nécessaire d'avoir un certain traitement là, qui est souvent beaucoup moins élaboré, mais pas toujours nécessaire. Ensuite, une fois qu'elle est rendue chez nous, ben, l'eau qu'on utilise, elle devient nécessairement chargée de divers polluants, hein, que ce soit des urines, des savons, des détergents, des résidus organiques, bref, tout ce qui vient avec. On va alors parler d'eau usée. Donc, okay. En fait, même l'eau de pluie qui tombe sur notre terrain, elle peut devenir de l'eau usée aussi, parce que si elle ne se trouve pas à s'infiltrer dans le sol, par exemple, si on a un allée en béton ou en asphalte, ben, elle va se trouver à ruisseler, puis potentiellement à rejoindre le réseau d'égouts et donc les eaux usées de nos voisins. Alors, et finalement, dans le fond, avant de pouvoir retourner cette eau-là usée dans la nature, sans créer de dommages, hein, on s'entend, il faut absolument qu'elle passe donc par une étape d'épuration. Dans les municipalités qui possèdent un réseau d'égouts, donc, il va y avoir une station de traitement des eaux usées qui permet de retirer, pas tout, mais un maximum de polluants quand même présents. Puis, par la suite, ben, l'eau va être rejetée dans un cours d'eau. Et si on n'est pas raccordé à un réseau d'égouts, à ce moment-là, ça veut dire qu'on possède notre propre installation sanitaire individuelle qui est habituellement composée là, d'une fosse septique et d'un champ d'épuration. Puis, ça fait un travail similaire là, à l'usine de traitement des eaux usées d'une municipalité. Puis, ben, à ce moment-là, l'eau va se trouver à retourner dans le sol, puis potentiellement à rejoindre l'eau souterraine.
OK. Donc là, je vais revenir à ce qu'on se disait en ouverture de chronique cette semaine. Au début de la semaine, on t'a entendu sur nos ondes. C'est le fun de ne pas t'entendre seulement un jeudi aux 4 semaines environ. Là, vous avez lancé une web-série sur tout ce qu'on vient de jaser, finalement.
Exactement. Et en fait, beaucoup plus détaillé que là, je l'ai faite de façon très synthétique. Sûr. Donc, oui, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire vraiment découvrir aux gens tout ce parcours de l'eau domestique-là, qui est souvent méconnu par plusieurs. Puis, on veut aussi leur donner des petits gestes simples, des gestes aquaresponsables à faire chez soi pour contribuer justement à la protection des lacs et des rivières. Donc, lundi, on a sorti notre première capsule et puis dans les semaines qui vont suivre, on va en sortir 4 autres. Donc, j'invite les gens à nous suivre.
Excellent. Oui, le rendez-vous est lancé. Vous allez pouvoir trouver ça sur le cobali.org ou également votre page Facebook, même une chaîne YouTube hein, maintenant.
Exactement.
On a tout ça. Aujourd'hui, nous étions avec Caroline Collin qui s'occupe des communications au Cobali. Merci, Caroline.
Merci à toi.